Voici une question dont la réponse en étonnera plusieurs. Est-ce que le livre de l'Apocalypse est difficile à comprendre? Les Saintes Écritures vont nous donner une réponse des plus instructives. Aujourd'hui même, à l'émission « À travers la Bible ».
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Mes amis, on continue l'introduction du livre de l'Apocalypse aujourd'hui. Notre enseignant en a tellement à dire à propos de ce livre que ça nous prend 3 émissions même, juste pour démarrer. Je trouve que ça promet concernant tout l'enseignement qu'on va recevoir dans ce beau livre de la Bible. Voici les questions qu'on va lui poser aujourd'hui. Quelle est la meilleure interprétation pour l'ensemble du livre de l'Apocalypse? Quelles sont les caractéristiques les plus frappantes de ce livre de la Bible? Quels sont les grands sujets prophétiques de ce livre? Quel en est l'acteur principal? Est-ce que ce livre est difficile à comprendre? À qui l'apôtre Jean s'adresse-t-il dans le livre de l'Apocalypse? Est-ce que les doctrines sur la prophétie se développent de nos jours? Restez à l'écoute, le pasteur Régent Joly va répondre à chacune de nos questions dans quelques instants. Mais premièrement, demandons au Seigneur de disposer nos cœurs à recevoir ce bon enseignement en toute simplicité dans le but de mieux connaître notre Dieu qui aime tellement se faire connaître à nous. Prions. Oui, Seigneur, tu aimes te faire connaître à nous parce que tu nous aimes. Tu aimes nous bénir en te connaissant mieux, on te sert mieux, on est plus heureux. Tu es bon, Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour tout ce que tu vas nous dire, de la manière dont tu vas enrichir nos vies aujourd'hui dans ce livre de l'Apocalypse. Merci, mon Dieu. Touche nos cœurs. Amen. À toi, Régent.
Merci beaucoup, Caro. Chers amis, à la dernière émission, nous avons vu que le message central de l'Apocalypse et de toute la Bible est de souligner la souveraineté et le contrôle absolu de Dieu sur toute sa création. Après avoir personnellement reçu Jésus-Christ comme son sauveur, le chrétien du temps de l'apôtre Jean, tout comme le chrétien d'aujourd'hui, constatait que le monde, lui, n'avait pas du tout changé. Léon Morris, dans son commentaire sur l'Apocalypse, explique très bien la situation. Qu'était-il arrivé au message qui les avait incités à devenir des chrétiens? Qu'était-il arrivé à la promesse du retour de Jésus-Christ? Avait-il commis une erreur en recevant Jésus-Christ? Cet espoir était-il illusoire? Le christianisme était-il une belle religion pour aller à l'église le dimanche, mais toutefois incapable de faire face aux exigences de la vie de tous les jours? Tout cela n'était-il qu'un beau rêve, destiné à se briser sur le rocher des réalités sociales et politiques? Dieu est souverain sur toutes choses. La Bible, dans son ensemble, nous expose le plan de Dieu pour l'humanité. Et l'Apocalypse nous annonce à l'avance comment ce plan viendra à son inévitable conclusion. J'aimerais une autre fois annoncer clairement mes couleurs. Je crois que la meilleure interprétation pour l'ensemble du livre de l'Apocalypse est le système d'interprétation futuriste. Quant à la meilleure interprétation concernant la question du millénium, je préconise une approche prémillénariste. Une approche traditionnelle. Certains semblent penser que ce point de vue futuriste, prémillénariste, représente une nouveauté. Bien que quelques aspects de ce système d'interprétation aient connu des développements récents, comme tous les autres systèmes d'ailleurs, j'aimerais vous partager quelques citations d'hommes d'Église afin de vous démontrer qu'ils attendaient le retour de Jésus-Christ. Et la croyance dans le retour physique et futur de Jésus-Christ est une caractéristique typique du prémillénarisme. Ces hommes ne s'attendaient pas forcément à une grande tribulation. Quelques-uns ne s'attendaient même pas à un millénium, mais ils attendaient certainement le retour de Jésus-Christ. Cette attente se situe au cœur même du point de vue prémillénariste, tel qu'il est défendu encore aujourd'hui. On rapporte que Barnabas, un co-ouvrier de l'apôtre Paul, a dit ceci. Le véritable sabbat durera 1000 ans quand Christ reviendra pour régner. En 96 après Jésus-Christ, Clément, évêque de Rome, a exhorté les fidèles de cette façon. À chaque heure, attendons-nous au royaume de Dieu dont nous ne connaissons pas le jour. En 108, Polycarpe, évêque de Smyrne, avant d'y mourir sur le bûcher, a déclaré « Il nous ressuscitera des morts, nous régnerons avec lui ». Par le martyre de ce saint, nous verrons à quel point la prophétie sur l'église de Smyrne, au chapitre 2, s'est révélée exacte. Ignace, évêque d'Antioche, identifié par l'historien Eusèbe comme le successeur de l'apôtre Pierre, a formulé ce commentaire. « Considérez les temps et attendez-vous à lui ». En 116, Papias, évêque d'Hierapolis, qui, selon Irénée, a entendu et vu l'apôtre Jean, annonçait « Viendra une période de 1000 ans où le règne de Christ sera personnellement établi sur la terre. » En 150, Justin Martyr affirme « D'autres comme moi qui sont des chrétiens fidèles en tout point aux doctrines savent qu'il se passera une période de 1000 ans à Jérusalem, comme Ésaïe et Ézéchiel l'ont déclaré. » On pourrait bien sûr ajouter à cette liste de prophètes le nom de Zacharie, comme nous l'avons vu il y a peu de temps. En 175, Irénée, évêque de Lyon, commente ainsi la promesse de Jésus à l'effet qu'il boirait encore du fruit de la vigne dans le royaume de son Père. Cela peut seulement s'accomplir par un retour personnel de notre Seigneur sur la terre. En 200, Tertullien s'exclame « Nous confessons de tout cœur que royaume est promis sur la terre ». Plus tard, au temps de la Réforme, Martin Luther nous avertit de ne pas penser que le retour de Christ est encore loin. À la même époque, Jean Calvin écrit dans son Institution de la religion chrétienne « D'une manière uniforme, les Écritures nous enjoignent à espérer dans l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ ». A. R. Fawcett nous a annoncé les pères de l'Église chrétienne, Clément, Ignace, Justin Martyr et Irénée, surveillaient le retour imminent du Seigneur comme un signe précurseur obligé avant le royaume du millénium. C'est seulement lorsque l'Église a perdu son premier amour et qu'elle est devenue la prostituée assise sur la puissance du monde qu'elle a cessé d'être l'épouse, s'avançant à la rencontre de son époux. Elle a préféré chercher à régner immédiatement sur la terre, sans attendre l'avènement de son Seigneur. Le docteur Elliott a écrit « Tous les premiers commentateurs de la Bible étaient prémillénaristes, sauf Origène et ceux qui rejetaient le livre de l'Apocalypse. » L'ouvrage de Gosler sur l'histoire de l'Église dit ceci de cette attente bénie. À cette époque, elle était mentionnée avec tellement de clarté et d'emphase qu'on n'hésite pas à la considérer comme une croyance générale. Chillingworth déclare « Cette doctrine était affirmée et enseignée par les plus éminents pères de l'Église, aux côtés des apôtres, et elle n'était condamnée par personne à cette époque. » Adolf von Harnack affirme « Les premiers pères de l'Église, Irénée, Hippolyte, Tertullien et d'autres croyaient en cette doctrine parce qu'elle faisait partie de la tradition de l'Église à ses premiers temps. Il en est de même pendant les 3e et 4e siècles pour tous les théologiens latins qui échappaient à l'influence de la spéculation grecque. Pourquoi ai-je cité tous ces hommes d'Église? Parce qu'il était impératif de démontrer qu'à partir du temps des apôtres et pendant l'Église des premiers siècles, l'interprétation des Écritures était prémillénariste. 6 caractéristiques. Le livre de l'Apocalypse présente 6 caractéristiques particulières et frappantes. Premièrement, il est le seul ouvrage prophétique du Nouveau Testament. Le contraste est notable lorsqu'on le compare avec les 17 livres prophétiques de l'Ancien Testament. Deuxièmement, l'auteur de l'Apocalypse, l'apôtre Jean, sonde l'éternité passée plus loin que tout autre auteur des Écritures. Il le fait dès le début de son évangile. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Ensuite, il passe au moment de la création, dans l'évangile de Jean chapitre 1 verset 3. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. La parole de Dieu, Jésus-Christ, a fait toutes choses, et rien n'a été fait sans elle. Et lorsque le regard du prophète se tourne vers le futur, il pénètre tout aussi loin. Dans le livre de l'Apocalypse, il se porte jusqu'au royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Troisièmement, une bénédiction spéciale est promise aux lecteurs de ce livre, dans Apocalypse, chapitre 1, verset 3. « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, et qui gardent les choses qui y sont écrites. Car le temps est proche. » Nous avons ici une promesse de bénédiction s'adressant aux lecteurs fidèles qui gardent en eux le contenu de ce livre. Mais cette bénédiction est assortie d'une mise en garde sérieuse contre ceux qui seraient tentés de trafiquer son contenu. Toujours dans Apocalypse, cette fois chapitre 22, versets 18 et 19. « Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. » Cet avertissement devrait inciter à la prudence les gens friands d'interprétations bizarres et excentriques. Ils devraient s'arrêter, regarder et écouter. Il est dangereux de dire n'importe quoi sur le livre de l'Apocalypse. Certains sont tentés par l'appât du gain, car le monde tend à se tourner vers les écrits apocalyptiques dans les temps d'incertitude. Dire quelque chose qui n'est pas cohérent avec le reste de la Bible revient à égarer les autres. Et malheureusement, les enseignants les plus populaires sur les prophéties se livrent à toutes sortes de spéculations. Cela représente un problème sérieux, et nous devrons en subir les conséquences. L'Apocalypse n'est pas un livre scellé. Dans le prophète Daniel, chapitre 12, verset 9, le prophète reçoit cet ordre. « Va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. » Mais l'apôtre Jean reçoit une consigne différente. Dans Apocalypse, chapitre 22, verset 10, « Ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. » L'Apocalypse n'est pas un livre scellé et hermétique. Dire que le livre de l'Apocalypse est un fouillis sans queue ni tête est impossible à comprendre revient à contredire ce verset. En fait, il est probablement le livre le mieux structuré de la Bible. Cinquièmement, ce livre est un recueil de visions exprimées en symboles reliés à une réalité. L'interprétation littérale est toujours préférable, sauf dans les passages où l'auteur nous le déconseille clairement. Sixièmement, l'Apocalypse se compare à la place Charles de Gaulle, anciennement place de l'Étoile à Paris. Toutes les grandes avenues des autres livres prophétiques convergent vers le point central de ce dernier livre de la Bible. Son message principal est la conclusion triomphale du plan rédempteur de Dieu pour l'humanité. Le livre de l'Apocalypse ne commence et n'ébauche rien. Il est plutôt l'accomplissement et la conclusion de ce qui a été commencé ailleurs dans les Écritures. On doit donc impérativement être capable de retracer tous les grands axes prophétiques à partir de leur début jusqu'à leur rencontre au point terminal et central, si on veut bien comprendre l'Apocalypse. Au moins 10 grands axes prophétiques trouvent ici leur point de convergence final. C'est pourquoi une connaissance du reste de la Bible constitue un préalable absolu à une compréhension exacte de l'Apocalypse. Dans ce livre, on a compilé jusqu'à 500 références ou allusions prises dans l'Ancien Testament. De ces 404 versets, 278 contiennent des références de l'Ancien Testament. En langage clair, plus de la moitié du contenu de l'Apocalypse dépend de votre compréhension de l'Ancien Testament. 10 grands axes prophétiques. Nous devons donc comprendre où chaque grand axe prophétique trouve son origine, comment il se développe dans la révélation progressive du plan de Dieu et comment il s'accomplit en parvenant à sa conclusion dans l'Apocalypse. Voici 10 grands sujets de prophétie qui trouvent ici leur aboutissement. Premièrement, le Seigneur Jésus-Christ est le principal acteur de ce livre. Les points principaux de ce livre ne sont pas les bêtes ou les coupes de colère, mais celui qui a porté nos péchés. on trouve la première mention de Jésus-Christ dans Genèse, chapitre 3, verset 15. Il est de la postérité de la femme. Deuxièmement, l'Église. Contrairement à Jésus, il n'est aucunement question de l'Église dans l'Ancien Testament. La première mention de l'Église est formulée par Jésus-Christ lui-même dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 16, le verset 18. « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Troisièmement, la résurrection et le transfert des saints. L'apôtre Jean aborde déjà ce thème dans son Évangile au chapitre 14. On peut également signaler 1 Corinthiens chapitre 15, les versets 51 à 54, et 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 16 et 17. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Quatrièmement, la grande tribulation, dont la première mention est faite dans le quatrième chapitre de Deutéronome. Dieu avertit son peuple que s'il se détourne de lui, il devra en subir les conséquences. Cinquièmement, Satan et le mal. Le prince du mensonge est décrit dans Ézéchiel, chapitre 28, versets 11 à 18. Sixièmement, l'homme de péché, décrit toujours dans Ézéchiel, cette fois, chapitre 28, versets 1 à 10. Septièmement, le destin peu enviable des faux chrétiens, dans Matthieu, chapitre 13. Huitièmement, le début, la progression et la fin du temps des nations, décrit dans Daniel, chapitre 2, versets 37 à 45. À cause de sa rébellion et principalement de son idolâtrie, le peuple d'Israël devra vivre soit chez lui sous la domination étrangère, soit carrément dispersé à travers le monde pour une bonne partie de sa longue histoire. Dans l'Ancien Testament, Israël a été dispersé par les Babyloniens pendant quelques décennies. Plus tard, sous l'Empire romain, il a été dispersé beaucoup plus longtemps, pendant presque 19 siècles. Quelques années avant cet événement, Jésus a prophétisé sur ce temps sombre. Dans l'Évangile selon Luc, chapitre 21, verset 24, « Ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Mais l'Éternel ne renoncera jamais à son peuple, et Israël survivra à ses nombreuses persécutions. Selon l'interprétation prémillénariste, l'Éternel n'en a pas fini avec la nation d'Israël, et un jour, elle sera rétablie. Jérusalem deviendra alors le centre du monde. Neuvièmement, le retour physique de Jésus-Christ, selon Jude, versets 14 et 15. Hénoc, un des premiers personnages de la Bible, avait prophétisé sur ce thème. Cela nous ramène au premier chapitre de la Genèse. Dixièmement, les alliances avec Israël, en commençant par l'alliance conclue avec Abraham dans Genèse chapitre 12 versets 1 à 3, Dieu avait promis 5 choses à Israël. Dans l'Apocalypse, il tiendra parole sur toute la ligne. Un livre simple à comprendre. Comme tel, le livre de l'Apocalypse n'a rien de compliqué. Les théologiens à tendance libérale ont cherché à le rendre difficile, et les amillénaristes le considèrent un livre symbolique et difficile d'accès. Et même certains prémillénaristes ont cherché à démontrer qu'il s'agissait d'un livre bizarre et excentrique. Pourtant, l'Apocalypse est un livre remarquable pour l'organisation et l'ordonnance de ses sujets. Nous n'avons aucune raison de nous méprendre. Si nous suivons les instructions de l'apôtre Jean, qu'il a lui-même reçu du Seigneur Jésus, dans Apocalypse, chapitre 1, verset 19. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est, et ce qui doit arriver ensuite. Ce que tu as vu, c'est le passé, ce qui est, c'est le présent, et ce qui doit arriver ensuite, c'est le futur. Le livre se divise en 3 sections. Passé, présent, futur. Je n'ai perdu personne jusqu'ici? Très bien. Parallèlement, à ce premier découpage, ce livre se divise en plusieurs séries de 7 sections chacune. Toutes les divisions sont très bien ordonnées. On pourrait difficilement trouver un livre mieux structuré. Répondons maintenant à l'argument voulant que ce livre soit entièrement symbolique et, de ce fait, incompréhensible. Cela n'arrivera pas. s'il est interprété littéralement. Et quand un symbole est utilisé, il est identifié comme tel. De plus, l'objet de ce symbole sera toujours réel. Cette signification du symbole sera toujours plus réelle que le symbole, pour la simple raison que l'apôtre Jean utilise des symboles pour décrire la réalité. Dans notre étude, nous devrons suivre ce principe à la lettre. Nous laisserons simplement ce livre dire ce qu'il a à dire. Par ailleurs, nous n'avons aucun droit de prendre dans ce livre certaines des merveilleuses illustrations décrites par Jean pour les interpréter au goût du jour. Ces illustrations sont symboliques, et même symboliques de la réalité, mais pas d'une réalité qui s'accomplit dans les temps actuels. L'Église de Jésus-Christ nous est présentée par le biais de 7 églises locales qui existaient réellement au temps de la rédaction du livre. On peut d'ailleurs encore visiter les ruines de toutes ces églises. Ceux qui les ont explorées ont habituellement beaucoup aimé leur expérience, et ils y retourneraient à la première occasion. L'apôtre Jean s'adresse spécifiquement à ces églises, mais en même temps, il nous raconte l'histoire de l'Église de Dieu dans son ensemble. Ensuite, après le chapitre 3, l'Église n'est plus mentionnée une seule fois. Elle n'est plus un sujet pour le reste du livre. Ce n'est pas qu'elle s'est éteinte, mais elle a été enlevée. L'Église, dans son ensemble, a quitté la terre et est montée au ciel. Elle apparaît là comme l'épouse de Jésus-Christ. Quand nous la revoyons dans la dernière partie du livre, elle n'est plus l'Église, mais l'épouse. Donc, à partir du chapitre 4, la vision du prophète se déplace vers le futur. Et je ne parle pas seulement de son futur, mais de notre futur, car les prophéties décrites là ne se sont pas encore accomplies. En d'autres mots, quand un auteur contemporain pige une révélation de l'Apocalypse, par exemple, une vision de famine, de guerre ou autre chose du genre, il lui fait violence en essayant de la transplanter dans le temps présent. Cela n'est guère convaincant. Cela ne prend pas, si on peut dire. Il vaut mieux laisser l'auteur inspiré nous dire les choses comme elles sont. Ce principe ne s'applique pas seulement à l'Apocalypse, mais à tous les autres livres de la Bible. L'élaboration des grandes doctrines. Il est intéressant de noter que le sujet de la prophétie a connu des développements importants à notre époque. Les grandes doctrines de l'Église se sont développées pendant des périodes précises de son histoire. D'abord, c'était la doctrine des Écritures en tant que parole de Dieu. Ensuite, les doctrines sur la personne de Jésus-Christ, connues comme la Christologie, se sont développées. Ensuite, d'autres doctrines, comme celle du salut éternel, se sont développées et ainsi de suite à travers les siècles. Aujourd'hui, nous vivons un temps où les doctrines sur la prophétie se développent. Nous devons donc faire preuve de prudence lorsque nous écoutons un enseignant. En même temps, le XXe siècle a connu un regain d'intérêt pour les doctrines des derniers temps. De grands progrès ont été réalisés dans ce champ d'action, particulièrement depuis la fin de la Première Guerre mondiale. Plus d'attention a été consacrée à cet aspect des Écritures. Il est donc normal que l'Apocalypse soit un des livres les plus étudiés à notre époque. En rédigeant le matériel de ces émissions de radio, j'ai fait de mon mieux pour éviter le piège de présenter quelque chose de nouveau et d'innovateur pour le simple plaisir d'être différent des autres. De notre côté, je me suis gardé de répéter des clichés et autres lieux communs. Plusieurs livres sur l'Apocalypse sont simplement des copies conformes de publications antérieures. Je possède plus d'ouvrages sur l'Apocalypse dans ma bibliothèque que tout autre livre de la Bible. Et la plupart d'eux sont des copies de ce qui a déjà été écrit. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission. En lisant ce livre de l'Apocalypse, à vous tous, je vous souhaite une bonne lecture.
Merci, Régent. Eh bien, pour ceux qui croyaient que l'Apocalypse était un livre compliqué, je pense que Dieu nous a décompliqué tout ça par l'enseignement qu'il nous a donné par Régent aujourd'hui. N'est-ce pas, mes amis? Je pense que c'est nous, les humains, qui compliquons les choses. Dieu nous aime et il n'essaie pas d'être mystérieux avec nous. Il veut nous faire comprendre de belles vérités que nous pouvons appliquer à nos vies afin qu'on soit heureux, afin qu'on puisse vivre une belle relation avec lui. Et je suis pas mal certaine que vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'on en a beaucoup appris à son sujet aujourd'hui et que ça n'a pas été compliqué, n'est-ce pas? Par contre, les gens qui ne connaissent pas Dieu et qui ne cherchent pas à le connaître tombent toujours dans des histoires qui leur compliquent la vie. C'est bien triste. Je vous partage que je ne suis pas une personne très intellectuelle. Quand un livre est compliqué, j'ai tendance à décrocher. Et je ne sais pas combien de livres j'ai lus sans me rendre jusqu'à la fin avant de connaître Dieu. Mais quand je suis devenue une enfant de Dieu, je me suis mise à lire la Bible. Je pourrais même vous dire que je me suis mise à la dévorer. Par exemple, le soir où je suis arrivée chez moi après ma conversion, j'ai lu les 20 premiers chapitres de l'Évangile de Jean. Et pour vous qui connaissez la Bible, vous savez que cet Évangile ne contient que 21 chapitres. Si je me suis arrêtée ce soir-là, c'est que j'étais soudain épuisée d'avoir lu autant. Et le lendemain, j'ai continué. En passant, mes frères et sœurs, passez-vous du temps dans la parole de Dieu. Chaque jour. Sinon, je vous encourage à le faire. On a tellement besoin de cette nourriture spirituelle quand on est un enfant de Dieu. C'est la nourriture pour nos âmes. Mais vous le savez déjà. Mais je pense qu'on a besoin de nous encourager mutuellement à persévérer dans la lecture et la méditation de la parole de Dieu et dans la prière. C'est ainsi qu'on maintient notre bonne relation avec notre Dieu. C'est ainsi qu'on trouve des forces dans les temps difficiles et c'est ainsi qu'on demeure attaché à Dieu quand ça va bien. Et toi, mon ami, toi qui n'as peut-être pas encore commencé à plonger tes regards dans ce beau livre de Dieu, je t'encourage à le faire et à commencer par l'Évangile de Jean. Et avant de t'y mettre, demande à Dieu qu'il se fasse connaître à toi, de te révéler son amour pour toi, de te dire ce que tu dois faire pour avoir une vraie relation personnelle avec lui. Et tu verras que ce n'est pas compliqué de devenir son enfant. Par exemple, dans le tout premier chapitre de cet évangile, au verset 12, il est écrit qu'à tous ceux qui ont reçu la parole, cette parole qui est Jésus, qu'à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mon ami, tu peux devenir un enfant de Dieu aujourd'hui même, en ce moment même. Jésus a dit ceci, « Celui qui croit en moi a la vie éternelle. » Il dit pas « Tu l'auras peut-être un jour » ou « Tu l'auras à force de t'efforcer de faire toutes de bonnes œuvres. » Non, il dit « Tu l'as déjà. Tu as la vie éternelle si tu crois en lui. » Alors, mon ami, place ta confiance en Jésus. Place-la en lui seul pour le pardon de tes péchés et pour le don gratuit de la vie éternelle. Il va te transformer immédiatement. C'est aujourd'hui que tu dois naître de nouveau.
Chers amis, ces émissions, ces messages suscitent en vous des questions, des réflexions? Vous aimeriez en recevoir les réponses?
On veut recevoir vos appels. Ça nous intéresse vraiment d'entendre vos réflexions.
Nous avons une équipe toute prête à les recevoir.
Ce sont des gens qui connaissent la parole de Dieu. Ils vont vraiment vous renseigner sur tous les points que vous voulez savoir concernant la Bible, tout ce qu'on peut lire dans les Saintes Écritures.
Ces gens sont disponibles 24 heures sur 24. Ce sont des gens bien engagés.
Ils attendent vos appels. Appelez-les, vous ne serez pas déçus, c'est certain.
Oui, toi qui vis avec ce questionnement, ne sois pas gêné. Fais-le. Rejoins ces gens qui sauront t'aider.
T'as besoin d'amour? Il y a juste Dieu qui peut te le donner. Et c'est à travers ces gens qui va te communiquer cet amour. Appelle. Appelle maintenant.
Voici nos coordonnées. Par téléphone.
1-877-L'Espoir. 1-877-537-7647. Et à notre adresse courriel
www.radioespoir.ca. Et à l'adresse postale
Radio Espoir, casier postal 34-143, Charlebourg, Québec, G1G6P2.
Chers amis, au revoir.
Bye-bye.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.